Planète Immo, une émission présentée par Michaël Nogal, président du Conseil national de l'habitat.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Immo et je suis très heureux de lancer cette émission, cette nouvelle émission Planète Immo. Chaque mois, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec ma casquette de président du Conseil national de l'habitat, entouré de ma petite bande de chroniqueurs et je vais vous les présenter tout de suite. On écoutera d'abord Henri Buzicazo, que l'on ne présente plus tant il est connu sur la Planète Immo et vous pouvez le retrouver d'ailleurs très régulièrement sur cette antenne. Henri, vous nous partagerez votre billet d'humeur. J'aurai aussi le plaisir d'être accompagné chaque mois par Séverine Amat, directrice des relations médias du groupe Se Loger. Séverine, vous reviendrez pour nous sur l'actualité de l'immobilier avec quelques chiffres issus de vos études. Et enfin, la dernière membre de la bande, j'ai nommé Roselyne Conan, directrice générale de la NIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement, peut-être la meilleure juriste de France. Roselyne, on sait combien les questions de logement peuvent être complexes, donc on compte sur vous pour éclairer nos auditeurs. Et apparemment, il y a aussi quelques pépites. On a hâte de découvrir ça. Alors l'idée de Planète Immo, c'est donc de passer une heure avec vous pour décrypter et analyser l'actualité, vous donner un maximum d'informations et valoriser celles et ceux qui font le logement au quotidien. Vous pourrez réagir, poser vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Planète Immo et n'hésitez pas évidemment à vous rendre sur le site internet Radio Immo ou à télécharger l'application radio.immo. On commence tout de suite avec le billet d'humeur d'Henri Buzicazo.
Planète Immo, le billet d'humeur par Henri Buzicazo.
Je voudrais dire ce qu'on ne dit nulle part. On ne dit nulle part, spécialement depuis le mois de mars dernier, que l'État ne peut pas tout faire. L'État, il faut le rappeler, un petit peu d'instruction civique, c'est le gouvernement, c'est le Parlement, c'est aussi l'État en région. Il fait beaucoup, je ne sais pas s'il fait assez, s'il fait bien, ce n'est pas le sujet. Je voudrais que dans cette émission, moi je vais m'assigner un peu ce rôle-là, les acteurs privés, mais ça peut être aussi les acteurs publics du logement, je voudrais qu'on dise qu'ils sont en mesure de faire beaucoup. Ils font beaucoup, ils ne font pas toujours assez. Alors soyons positifs, je vais vous donner deux exemples. De thèmes sur lesquels on pourrait rester les deux pieds dans le même sabot et dire mais que fait l'État, spécialement dans cette période de crise sanitaire, économique, sociale. Le premier sujet, j'ai fait partie de ceux qui ont montré du doigt, je continue, au moment où on se parle, on se demande encore si c'est possible, ceux qui ont trouvé que les critères fixés fin 2019 par le Haut Conseil de stabilité financière, qui sont venus fermer la distribution du crédit, très clairement, en privé, l'accès à un certain nombre de jeunes ménages, par exemple, mais aussi d'investisseurs, ben oui, j'ai trouvé qu'il faudrait les assouplir dans cette période. Alors, ça n'est pas le cas, ça n'est pas encore fait, est-ce que ça interviendra? On peut toujours dire, mais ce Haut Conseil, présidé par le ministre de l'Économie, c'est l'État, n'a rien compris et hors sol. Et puis on peut se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Un hommage à Nexity. Pas de la publicité, c'est de l'exemplarité, au bon sens du terme. Nexity dit, bah, c'est vrai que ceux qui n'ont pas d'épargne, alors même qu'il y a une exigence d'apport personnel, qui vient de ces critères, eh bien, on va proposer qu'une cagnotte se constitue pour eux. Et on va faire une espèce de fundraising de proximité familiale, et Nexity va abonder d'autant, à hauteur d'un maximum de 6 000 euros, il y a des règles du jeu, et ça fera l'apport personnel. Voilà, initiative privée, Nexity fait partie de ceux qui font pression sur le Conseil pour qu'ils voient les choses différemment, en attendant, ils agissent. Deuxième exemple, il y a un député qui s'appelle Michaël Nogal.
Bon, on ne connaît pas.
Il a, depuis 2 ans, travaillé sur l'amélioration des rapports entre propriétaires et locataires. Il a fait des propositions. Il y en a une, notamment, elle se retrouve dans une proposition de loi qui n'est pas votée. Bon, est-ce qu'elle le sera un jour? C'est pas le lieu, puis il ne m'appartient pas de savoir si elle sera inscrite à l'ordre du jour, si elle sera votée. Moi, je le souhaite, mais on le sait. Qu'est-ce qu'elle propose? Notamment que tous les mandats de gestion des professionnels soient assortis d'une garantie de versement du loyer aux propriétaires. Bref, c'est une sécurité pour que l'investissement locatif soit à rendement garanti, finalement. Bon. C'est une révolution. Alors, on peut se dire, tant que ce n'est pas voté, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on peut aussi, et des assureurs le font, et des administrateurs le font, des administrateurs de biens, eh bien, proposer cette garantie contre les loyers impayés. Ça fait 2 ans qu'on en parle, les propriétaires demande cette garantie, ben voilà, on la propose librement. Si un jour elle est obligatoire, elle le sera. Ne pas tout attendre de l'État, ne pas tout attendre des obligations de l'État lorsqu'il y a carence de l'initiative privée. Voilà, l'État, évidemment, peut intervenir. Eh bien, pourquoi y aurait-il carence d'initiative privée? Il y a beaucoup de capacités d'innovation dans notre secteur. Voilà, c'est un petit coup de gueule. Régulièrement, si vous voulez bien, je distribuerai des bons points. Et puis, je taperai parfois sur les doigts quand il le faut, avec l'affection qu'on sait que j'ai pour ce secteur. C'est ma famille professionnelle depuis 30 ans.
Et je crois que les auditeurs de Radio Emo ont l'habitude et apprécient beaucoup ces...
Je les ai un peu formés depuis quelques années.
Ce talent de polémiste que vous avez, cher Henri. Je précise que je ne lui ai pas demandé d'évoquer ma proposition de loi, puisque je suis là en tant que président du Conseil national de l'habitat. Séverine, par rapport à ce qu'a dit Henri, dans vos études, le sujet des impayés, de l'accession à la propriété, c'est un sujet, j'imagine, qui revient beaucoup, parce que ça fait partie des aspirations des Français. Les impayés, c'est une vraie problématique. On entendra tout à l'heure Roselyne, puisque les ADIL sont aussi beaucoup consultés. Mm-hmm. Quelle perception vous avez avec ce loger de ces sujets?
Alors nous, effectivement, on suit ces sujets parce qu'on prend le pouls des porteurs de projets depuis des années maintenant, tous les 4 mois régulièrement. Côté propriétaire-bailleur, on sait qu'il y a 2 inquiétudes qui remontent au travers de nos sondages. C'est la première, la question des impayés. Ces propriétaires-bailleurs hésitent à mettre leurs biens en location parce qu'ils ont peur d'être confrontés à des impayés, ça c'est sûr. Et la seconde, c'est la dégradation des biens, voilà, ce qui remonte en termes d'écueils concernant les propriétaires-bailleurs. Voilà ce qu'on peut dire.
Roselyne, vous avez aussi ce type de retour ?
Alors, donc c'est vrai que nous, nos agences départementales qui reçoivent le public reçoivent autant les locataires que les bailleurs. On a mis en place un indicateur avancé qui est le baromètre des consultations des ADIL en matière d'impayés. Et on mesure depuis le printemps les évolutions qui sont manifestées dans ces différentes périodes. Donc c'est vrai qu'on identifie depuis le mois de septembre-octobre une hausse des sollicitations comme on avait pu la mesurer au mois de juin au moment de l'annonce justement des aides d'Action Logement. Et là, ce qu'on identifie sont beaucoup de sollicitations, notamment des locataires qui sont en phase amont de l'impayé, qui sont inquiets et qui ont vraiment besoin d'informations parce qu'ils se disent « bon, là, je suis... j'arrive à payer mon loyer, mais je sens que finalement, dans les mois à venir, je vais peut-être avoir un problème. Donc, l'enjeu, c'est vraiment porter à connaissance de ces ménages l'ensemble des dispositifs qui existent, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de leur ADIL pour qu'ils leur expliquent les aides au logement.
Justement, comment on se rapproche des ADIL au niveau des départements? Est-ce qu'il y a des ADIL dans tous les départements?
Alors, c'est très simple. Dans 84 départements, vous avez une agence départementale. Donc, vous avez une carte interactive sur le site de l'ANIL où vous allez cliquer sur le département. Et lorsqu'il n'y a pas d'ADIL dans le département, vous avez l'ADIL voisine qui est là pour vous répondre et qui connaît les dispositifs du département voisin. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est gratuit. Ce sont des experts. Vous avez 450 juristes dans le réseau qui sont là pour vous écouter, vous orienter. Je dirais la plus-value de ce réseau, c'est qu'il y a la proximité. Vous connaissez bien les aides nationales, les aides au logement. On va passer à l'appel en temps réel. Donc c'est vrai qu'au 1er janvier, il y a un vrai plus, un recalcul sans un décalage dans le temps. L'enjeu, c'est aussi connaître les règles de fonctionnement des aides locales, que ce soit les fonds de solidarité logement. Il y a des CCAS aussi, des centres d'action sociaux qui ont des aides spécifiques. Et ça, quand on est tout seul, quand on est locataire, quand on est bailleur, je le rappelle, les ADIL renseignent tout le monde.
Oui.
C'est-à-dire que
gratuitement.
C'est-à-dire que nous sommes une association d'information. Nous sommes là à la disposition de tous pour vous renseigner. Un accédant à la propriété qui n'arrive plus à rembourser son prêt peut venir aussi nous poser ses questions. Il est évident qu'il va se rapprocher de son établissement financier, mais on va peut-être regarder son contrat de prêt parce qu'il n'a peut-être pas pensé à renégocier son contrat. S'il a emprunté, par exemple, il y a 8 ou 9 ans, les taux n'étaient pas forcément aussi intéressants. Donc, il y a potentiellement une renégociation du prêt à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Oui. C'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ne pas rester seul. À partir du moment où on se pose une question, on a un problème, on a une inquiétude, on n'hésite pas à solliciter l'ADIL. Donc, on a plus de 1200 lieux d'accueil. Donc, c'est vrai qu'avec le confinement, on était contraints de faire principalement des réponses par téléphone et par mail avec des formules de visio, rendez-vous en visio. Mais vous pouvez scanner vos pièces. On a mis en place des dispositifs pour faciliter justement l'accès à l'information. Je pense que l'enjeu, il est là. C'est le non-recours au droit, il est encore important. Donc on a quand même des ménages et de nouveaux ménages qui rentrent en fragilité et qui n'ont pas du tout le réflexe de solliciter une aide et qui n'iront pas avoir un travailleur social. Alors que quand on les oriente vers les adultes, ils sont presque plus enclins à le faire. Et nous, quand il y a après le nécessaire renvoi vers un travailleur social pour mobiliser certaines aides, en l'accompagnant, en lui expliquant bien, du coup, c'est quelquefois on fait le relais et c'est important.
Alors, pour que nos auditeurs connaissent bien et peut-être mieux même les ADIL, sur quel sujet vous pouvez intervenir, vous pouvez délivrer un conseil? Je rappelle que c'est 450 juristes partout en France. Et sur quel autre, ce sont des acteurs différents qui interviennent?
Alors, nous intervenons sur l'ensemble des questions logement.
OK.
Alors, ce qui veut dire que nous ne remplaçons pas ni un notaire, ni un huissier, ni un avocat. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est vraiment l'information, la sensibilisation. On va guider le locataire, l'accédant à la propriété, l'investisseur, le bailleur dans sa démarche. On va lui expliquer la règle de droit. On va lui expliquer les modalités pour faire une démarche, solliciter une aide de l'ANA, pour solliciter une aide d'Action Logement. Et on peut l'accompagner, par exemple, sur un projet de rénovation énergétique en lui expliquant les différentes aides. On peut accompagner un candidat à l'accession à la propriété, lui expliquer ce que c'est que le prêt à taux zéro. On a des outils de simulation pour faire des diagnostics de financement. Donc on part des revenus de la personne, on va cumuler les aides nationales, les aides locales. Et en fonction de ses ressources, on va définir une mensualité et une enveloppe. Donc on lui dira, aujourd'hui, si vous voulez accéder à la propriété, vous pouvez financer le montant de 350 000 euros, par exemple. Mais on peut très bien aussi renseigner un locataire qui, par exemple, est en difficulté dans un grand logement parce qu'il est trop grand pour lui et il se demande, mais comment puis-je faire? Donc c'est trouver un logement plus petit, peut-être faire une demande de logement social. En fonction de ses ressources, on va lui expliquer s'il peut bénéficier d'un logement social. Donc la formation, elle est très, très vaste. Ça va des questions sur la copropriété en passant par la taxe d'habitation qui va bientôt totalement disparaître. Mais,
et les punaises de lit, parce que je rappelle, et ça se sait peu, mais les numéros verts qui sont mis en place de manière ponctuelle pour traiter des questions de ce type, le problème des punaises de lit que vous avez dans les villes notamment, ou SOS impayé qui a été mis en place pendant le confinement, c'est vous, les juristes de l'ANIL, qui gérez ces numéros verts?
Alors, donc l'ANIL gère plusieurs plateformes d'appel, donc le SOS Loyer Impayé et Info Logement Indigne, qui sont des plateformes qui permettent, via un numéro unique, de taper son numéro de département et d'être orienté vers l'ADIL la plus proche de son domicile. Et là, au bout du fil, un juriste expert qui renseignera donc sur la ligne Info Logement Indigne sur l'ensemble des questions d'habitat dégradé et également les punaises de lit. Donc nous ne sommes pas des sociétés de désinsectisation. Par contre, nous expliquons si c'est un bailleur, un locataire, qui prend en charge quoi, les obligations, le texte de référence, parce que c'est un petit peu... il y a des questions qui sont toujours, je dirais, à enjeu, et à enjeu financier, donc forcément, ça questionne. Donc c'est vrai que quand on a le texte de loi, quand on écrit à son bailleur, ou quand le bailleur écrit à son locataire en lui expliquant la règle de droit, en citant le bon article et avec une bonne formule explicative, tout de suite, ça passe beaucoup mieux. Donc... nous avons d'autres lignes sur d'autres sujets, sur l'accession à la propriété, mais qui sont peut-être un peu moins visibles. Mais c'est vrai qu'on a une ligne aussi sur l'encadrement des loyers, qui va, je pense, reprendre du service, puisqu'on a plusieurs collectivités qui se lancent dans l'aventure, donc avec un besoin d'informations fort. Et on a aussi, bien sûr, sur notre site Internet, plein d'outils faciles à utiliser, des outils de calcul, des dépliants, des capsules vidéo... dont notre dernier né, c'est sur la copropriété, n'hésitez pas à la regarder. Et on a les deux capsules sur l'impayé, un pour le propriétaire, un pour le locataire. L'objectif, c'est d'être pédagogique, on ne fait pas un cours de droit, on donne ce qu'il faut absolument éviter et ce qu'il faut faire.
Très bien.
En résumé, allez voir une ADIL.
Parfait. Je pense que le message est passé. Henri, plusieurs sujets ont été évoqués et je sais que plusieurs d'entre eux vous tiennent à cœur. D'abord, vous avez été un des premiers à alerter sur le risque des impayés et le risque de précarisation en raison de la crise. Oui. Et aussi la rénovation énergétique. On sait que la rénovation énergétique, c'est un sujet très compliqué.
L'impayé de loyer et de charges, je me permets de...
Bien sûr. Un pied de loyer de charges, tout à fait.
Les deux.
Il faut l'ajouter.
Et les ADIL, l'ANIL observent les deux.
C'est ça. Et la rénovation énergétique, qui est encore plus compliquée quand on est dans des copropriétés. Oui. On essaie, en tout cas, les pouvoirs publics essaient de simplifier tout ça. Comment vous observez ces sujets, d'abord sur les impayés, puis sur la rénovation ?
Sur les impayés, je me réjouis qu'il y ait cet observatoire que la ministre ait estimé qu'il fallait regarder de près. Voilà, je trouve qu'il y a un peu une omerta sur le sujet depuis quelques mois. Je trouve que dans la communauté professionnelle des gestionnaires, on dit non, il n'y a pas de problème, puis on ne voit pas pourquoi il y en aurait. Alors si, il y en a déjà. Il y a des retards de paiement, ça tire. Il y a des plans d'apurement qui sont mis en place, ils sont plus ou moins respectés. Ça, c'est du verbatim de professionnel, c'est pas les éléments de langage. Bon. Et puis surtout, on ne voit pas pourquoi il n'y en aurait pas. On ne voit pas pourquoi, surtout, les ménages ne rencontreraient pas de difficultés. Bien sûr, beaucoup d'entre eux vont en rencontrer. Et je pense qu'après quelques mois, au cours desquels ils ont priorisé le paiement du loyer, il faut mettre ça au crédit des ménages. Je me rappelle le débat sur la GUL en 2014, ce qu'on appelait l'aléa morale. Hein, voilà, il était dans beaucoup de bouches. On disait, ah, mais le locataire, s'il sait qu'il va y avoir une garantie générale, il va tout faire pour ne pas payer son loyer. C'est pas vrai, ça.
On a fait le même reproche à Visal quand ça a été mis en place.
Bien sûr, c'est pas vrai. Il y a une dignité. On paie son loyer, puis quand on ne peut plus le payer, là, ça tire. Et ça va tirer ces dernières semaines de l'année 2020. Et bien sûr, au premier trimestre, c'est inévitable. Je parlais de garantie de loyer impayé. Les assureurs ont dit... On continue à couvrir des locataires en place et on joue le jeu. Et bien sûr, si vous êtes déjà couvert par un contrat, ben on assumera nos responsabilités. C'est pour ça que je parlais d'initiatives privées. Il faut couvrir les bailleurs, parce que Roselyne parlait des locataires qui s'inquiètent quand ils se sentent que ça va être difficile. Mais les bailleurs s'inquiètent,
bien sûr,
parce qu'ils voient qu'un locataire peut être un impayé ou parce qu'ils ont envie d'investir et ils se disent « mais franchement, c'est le plus mauvais moment ». Non, voilà, il faut se protéger. Voilà ce que je pense sur les impayés. Impayés de charges en copropriété, on va en avoir. Là aussi, d'ailleurs, il y a des produits qui permettent de couvrir ce risque-là. Mais les syndics, aujourd'hui, commencent à le sentir. C'est des retards, c'est ça. Hein, le signal faible, c'est ça, c'est le retard. Hein. Et puis, on va avoir des copropriétés. Vous savez, vous avez 25 copropriétaires, il y en a deux qui sont en impayé. Et bien, la copropriété ne tourne plus. Voilà, il n'y a plus de quoi payer. Hein. On est en plus aujourd'hui en compte séparé, donc c'est clair. Hein. Il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent et on ne va pas jouer avec autre chose. Sur la rénovation énergétique, ben c'est corollaire de ce sujet-là. Moi, j'ai une inquiétude. Les copropriétaires vont avoir du mal à payer les charges courantes. Voilà. Tout simplement à payer ce qui permet de faire vivre l'immeuble tel qu'il est, sans parler de travaux exceptionnels. Alors bien sûr, MaPrimeRénov, pour parler de ce dispositif-là, mais il y a aussi les certificats d'économie d'énergie. Enfin, il y a une panoplie d'aides. C'est puissant, c'est pratiquement 2,5 milliards entre ce qui était déjà au pot et les 2 milliards pour les deux années à venir. Sur MaPrimeRénov, c'est considérable. Hors de question de dire, moi je l'ai entendu de la bouche de certains responsables, « Ah, mais il faudrait 4 fois plus ». Oui, enfin bon. Les aides sont là. Maintenant, il va falloir que les syndics mobilisent cette ingénierie, donnent tous les arguments jusqu'au confort de vie, jusqu'à la valorisation des immeubles, parce qu'autrement, ça va être très difficile de dire à des copropriétaires qui déjà se disent « mais comment je fais pour payer les charges courantes ?» Ben, il va falloir en rajouter un petit peu. Ça ne va pas être facile. Alors, le reste à charge, grâce à MaPrimeRénov, c'est selon les revenus, Rosine en parlerait plus savamment que moi, il faut regarder de près, justement, auprès du Nadine, mais le reste à charge, il va entre 10% pour les ménages les plus fragiles, c'est quand même digeste, jusqu'à 50% ou 60% pour les plus fortunés. Mais il va falloir vraiment les mobiliser, ça va pas être facile.
Roselyne, vous avez des chiffres là-dessus, vous avez des données ?
On n'a pas encore travaillé, nous, sur le sujet. Par contre, peut-être compléter les propos d'Henri. Il y a beaucoup d'AG qui n'ont pas eu lieu.
Bien sûr.
Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux qui n'ont pas été votés.
Et ce n'est pas avec une AG virtuelle qu'on va convaincre des
travaux. Ce que j'explique régulièrement, c'est que le vote par correspondance, c'est utile, mais on ne vote pas un ravalement par correspondance. C'est-à-dire que, alors, le copropriétaire, il faut qu'il arrive à bien anticiper, à comprendre l'enjeu de chaque résolution. Il est certain que le débat en Assemblée générale, la présentation par le syndic et l'architecte de l'immeuble d'un gros projet, parce que si on est sur de la réno, on est sur de l'isolation, on est sur la réfection de toiture, des changements de fenêtres, on est en général sur des budgets qui sont importants. Et je pense que pour bien comprendre le projet, rien ne vaut un temps d'échange et de présentation Le syndic, il a un rôle pivot sur le sujet. Et c'est vrai que quelqu'un qui, dans son coin, lit l'ordre du jour, vote par correspondance, on a des AG, on a des résolutions qui sont bloquées à cause des votes par correspondance.
Oui.
C'est-à-dire que ben, les gens, ils disent oh, « ben, je n'ai pas de sous, moi je vote contre, contre, contre ». Et au final, voilà, avec une bonne information en amont sur ah « ben, on va pouvoir mobiliser des aides, on va pouvoir les financer, ces travaux », finalement, ils auraient voté pour.
Oui, et puis je rappelle que, comme l'a dit Henri, ma prime rénov' aujourd'hui, c'est un dispositif doté de 2 milliards d'euros et justement ouvert aussi aux propriétaires bailleurs, ouvert aux copropriétés. C'était quelque chose qui était beaucoup plus difficile avant. Et donc l'année 2021 doit être aussi l'année de l'effort de la rénovation énergétique. Et puis je ne mentionne pas toute la partie publique, c'est-à-dire tous les bâtiments publics de l'État. Et là, c'est plus de 2 milliards aussi qui vont être investis partout en France. Plus de 4000 projets qui vont faire l'objet de rénovation des bâtiments publics. Et si je peux faire un clin d'œil à Toulouse, l'université Toulouse-Jean Jaurès, par exemple, qui va bénéficier de fonds pour être rénovés. Je vous propose que l'on passe maintenant à l'actu en chiffres, des chiffres exclusifs que va nous présenter Séverine Amat.
Planète Immo, l'actu en chiffres avec Se Loger par Séverine Amat.
Bonjour Mickaël, je suis ravie d'être à vos côtés pour cette première. Alors moi, mon rôle tous les mois, ça va être de vous éclairer, éclairer l'actu du logement avec des chiffres, des sondages, des enquêtes d'opinion, chose que le groupe Se Loger réalise... réalise, ma langue a fourché, réalise souvent. Alors on prend le pouls nos déporteurs de projets, des locataires, des bailleurs, des acquéreurs, des vendeurs, mais on éclaire aussi les institutionnels et le marché dans sa globalité avec des indicateurs de prix, que ce soit des prix à l'achat ou à la location. Alors... Parmi les chiffres qui ont été révélés par cette dernière enquête, parce qu'elle a été révélée récemment, la semaine dernière, moi, j'en ai retenu deux chiffres.
Dites-nous.
Ben, le premier, c'est qu'il y a 6 porteurs sur 10, 6 porteurs de projets d'achat, parce qu'on va parler de l'achat, on a beaucoup parlé de la location, mais là, revenons un peu à l'achat. 6 porteurs de projets d'achat qui sont confiants, et oui, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les conditions d'octroi de crédit qui se resserrent, malgré l'environnement ambiant, etc., qui est un petit peu morose, il faut le dire. Et on souhaite que cette nouvelle année 2021 soit dans les plus belles couleurs. Eh bien, il y a quand même de l'enthousiasme, il y a quand même de la confiance, et ça, c'est à souligner. Même si cette confiance s'effrite, elle fait de la résistance parce qu'on l'a jaugée et jugée depuis la première vague de confinement. On voit effectivement qu'elle est un petit peu descendante, mais elle est au-dessous en fait, des 50%. Donc c'est une confiance qui reste et qui perdure. Alors cette confiance, elle existe au travers de deux raisons. La première des deux raisons, c'est que ces porteurs de projets sont plus sereins sur leurs conditions financières. Et ça peut paraître contradictoire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont... plus sereins et plus confiants par rapport à la capacité financière, à l'enveloppe financière qu'ils ont définie pour leur projet de vie, leur projet idéal, alors qu'ils le sont moins par rapport à l'ambiance, c'est-à-dire à l'environnement économique externe qui, selon eux, va se dégrader dans les 6 prochains mois. Voilà.
Est-ce que c'était des projets qui étaient déjà pensés avant le confinement ?
Oui. Oui. C'est des projets qui étaient amorcés bien avant le confinement et qui ont subi du retard parce que au fil des sondages que l'on a eu réalisés depuis le premier confinement, effectivement, on s'est rendu compte quand on a posé la question de savoir s'ils avaient arrêté leur projet ou continué ou mis de côté, seulement 2% des porteurs de projets avaient arrêté leur projet et l'ensemble, les 98% restants, continuaient et étaient dans les starting blocks en attendant cette fameuse date première de libération au 11 mai, puis celle à nouveau qui s'est ouverte et libérée là. Mais ils sont dans les starting blocks et ils n'attendaient qu'une chose, eh bien, le souhait de concrétiser, de mener à bien le projet de toute une vie qu'ils ont largement eu le temps de peaufiner.
Voilà. Et on sait que la difficulté dans un acte d'achat, c'est aussi constituer son dossier de financement avec un apport personnel. Mm-hmm. Vous avez rappelé les conditions d'accès au crédit. Mm-hmm. Aujourd'hui, comment les futurs acheteurs se comportent et appréhendent justement cette constitution de dossier de financement ?
Alors, ces porteurs de projets ont musclé leur capacité financière. On sait que 8 porteurs de projets vont passer par la case crédit, mais on sait aussi que ces porteurs de projets-là vont augmenter leur capacité de financement, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'on va plus leur demander en termes d'apport. On n'est plus sur 10, on est plutôt sur 15-20%. Voilà. Sur un bien en termes de prix d'achat moyen dans l'ancien estimé à 251 000 euros, eh bien, on est entre 25 et 50 000 euros d'apport personnel. Donc ils le savent, ils l'ont entendu et compris. Donc ils ont profiter de ce moment où on a beaucoup épargné, hein, il faut le dire, hein, 90 milliards d'épargne pendant ce confinement, ces deux confinements, il faut le préciser. Donc cette épargne-là, il est mis à bien, il est orienté avant tout pour ce projet de vie. Et donc ces porteurs de projets sont conscients que s'ils veulent passer le filtre bancaire, il faut muscler leur capacité d'apport. Et puis, on sait aussi au travers de cette dernière vague, et ça c'est plutôt nouveau, qu'ils n'hésitent plus à boucler ce crédit en faisant un tour de table familial, en sollicitant l'environnement, les amis, la famille d'abord, hein, un premier cercle, pour effectivement mener à bien ce projet d'acquisition. Alors ça, c'est le profil des acheteurs, mais sur la planète IMO, Michael, on a aussi les locataires. Sure. Et la bonne nouvelle, c'est que le groupe Se Loger les sonde au travers de l'Observatoire du moral immobilier tous les 4 mois. On pèse et on juge et on jauge ces locataires et on leur demande effectivement dans quel état d'esprit ils se trouvent. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne sais pas, Madame Conan, si vous avez estimé le nombre de questions posées, si la part est plus belle et plus importante côté locataire ou côté propriétaire, mais nous, ce que l'on remarque sur le site de Se Loger, c'est qu'on a une explosion de l'offre locative déjà avec plus 32% et une explosion aussi de la recherche locative avec plus 66% en un an. Voilà. Donc la location qui était un petit peu Henri, le parent pauvre de l'immobilier. Hein, moi, j'ai retenu une phrase à l'Assemblée quand je vous ai rencontré pour la première fois un mois de juin, un 16 juin ou un 13 juin, voilà, à l'occasion de la présentation de votre rapport, Michael. Vous disiez quelque chose de très vrai, c'est que vous disiez... les agents immobiliers sont pas forcément conscients que la location est un vrai vecteur de revenus, au même titre qu'il peut l'être plus encore que celui de la transaction. Et ça, je l'avais retenu, tout simplement parce que j'écoute, mais je le constate aujourd'hui. C'est vrai que ce parent pauvre-là, on n'a pas fini d'en parler sur l'année 2021, à mon sens.
Et puis, on va être clair, hein, j'ai écouté les propos récents du président de la République, moi j'ai des sources supérieures, hein. Je crois, on peut le reprocher au président de la République, mais d'abord il vit avec son temps, et puis voilà, il y a des raisons fortes qui font que locataire est un vrai statut, et pas un statut interstitiel avant de devenir propriétaire. Je crois que des ménages seront durablement locataires et doivent être des locataires heureux. Donc il faut des logements de qualité en offre suffisante, il faut des relations apaisées, bon, très bien. Mais ça devient un vrai statut. C'est vrai que la profession immobilière ne l'a pas vu très souvent comme ça. Je crois qu'il faut considérer qu'on va avoir de plus en plus de locataires et que peut-être l'accession à la propriété va perdre quelques points ou ne va plus progresser. Elle progressait depuis une vingtaine d'années. Et ce n'est pas un problème. Il faudra bien des achats de logements d'investisseurs. Donc le marché n'en souffrira pas. Mais c'est un statut de quelqu'un qui va être un usager du logement. C'est l'usage qui aujourd'hui gouverne beaucoup de vie, beaucoup plus que la propriété. Et des élus jeunes, hein, voilà, il y en a qui sont proches de nous. Je parlais d'Emmanuel Macron, il est moderne de ce point de vue-là. On peut se dire qu'il n'aime pas la propriété. Non, aujourd'hui, je considère que ces deux statuts risquent fort de se rééquilibrer. Et d'ailleurs, au cœur de nos villes, là où c'est très difficile d'acheter, ça fait maintenant 15 ans qu'on a entre 60 et 65% de locataires et non pas de propriétaires excédents dans toutes les grandes villes.
Alors, je compléterai le propos, si vous me le permettez, avec des chiffres qui viennent de notre sondage.
Question, Séverine. Est-ce qu'il y a des différences en fonction des territoires? Parce que vous observez, vous avez des retours de tout le territoire. Est-ce que les métropoles, les zones plus périurbaines ou rurales, est-ce que vous voyez des différences sur l'achat et sur la location?
À ce titre-là, au niveau de cette granularité, je pense qu'on pourrait avoir les données. Je ne les ai pas, là, pour vous y répondre.
C'est une suggestion, pour la prochaine fois.
Pour la prochaine fois. ce que je peux dire, c'est que 45% des locataires aujourd'hui le sont par dépit. C'est ce que l'on sait du sondage de l'Observatoire, hein, de la dernière vague. Et 42%, les autres, le sont par un sentiment qui est celui, par le choix, mais le choix de la liberté. C'est-à-dire qu'ils considèrent que d'être locataire, c'est d'avoir plus de liberté. Voilà. Et ça, ce sont des items, des éléments, des chiffres qu'il faut retenir et qu'il faut avoir en termes de marqueurs, je pense, et suivre dans le temps.
Sur la distinction aussi, on sait que le meublé, le bail meublé à la côte, est-ce que ça, vous avez aussi des données là-dessus?
Eh bien, on voit en fait, effectivement, on s'est rendu compte, parce qu'on s'est dit, mais quelle est cette affluence de biens sur nos sites meublés, hein, pour tout vous dire, au sortir des vacances d'été. On s'est dit, mais ce sont des biens meublés, non meublés. Et effectivement, qu'on a deux fois et demi, enfin presque deux fois et demi d'offres en plus sur un an en termes de meublés. Alors, est-ce que c'est une bascule de ce système de location courte qui bascule vers la longue durée, ou ces propriétaires bailleurs qui n'avaient pas mis à la location ce bien et qui, dans cette période difficile, se disent qu'un complément pécunier n'est pas à mettre de côté. Donc, cet élément de distinction, on ne l'a pas, mais on constate effectivement cette affluence, plus 32% d'offres sur les sites, sur nos sites Se Loger et Logiquimo, c'est quand même énorme en un an. Voilà. Et 66% de personnes qui tapent, qui viennent, qui se renseignent et qui sollicitent une location, ça l'est d'autant plus aussi.
Après, je pense que pour un bailleur, il y a un choix à la fois fiscal et choix du régime juridique, hein, de mise en location, où finalement cette souplesse de baux qui peuvent être d'un an ou 9 mois pour un étudiant, ça peut être aussi une piste, hein, pour le bailleur en se disant, ben voilà, je vais mettre mon bien en location pour une plus courte durée peut-être, ou si c'est un bien qu'il possède déjà, si le prêt est déjà remboursé, le régime fiscal est peut-être plus intéressant pour eux aussi.
Bah, vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que louer un bien meublé, en termes de revenus, c'est un 1,4 loyer en plus sur un an. Donc c'est quand même, économiquement, c'est quand même intéressant.
Mm-hmm. Voilà. Et dans les villes en encadrement, c'est le cas de la capitale et de quelques autres, hein, dans le pays, bientôt, on a en plus des niveaux de loyer qui sont de l'ordre de 20% au-dessus. Voilà. Donc l'investisseur peut voir ça. Sur l'histoire d'Airbnb, je mets un nom sur la location courte durée. Oui, il y a un apport Airbnb parce qu'on ne voyage plus. Connaît un certain nombre de difficultés, ça n'a pas empêché une brillante introduction en bourse, parce que le concept a du sens. Mais en attendant, les propriétaires bailleurs se disent, ben, là, j'ai plus personne, quoi. J'ai plus l'américain, le chinois, l'anglais, même le provincial. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et il y a un basculement, il y a un transvasement. On constate aussi que ça ne profite pas encore aux professionnels de la gestion. Voilà. Et ça, d'ailleurs, ça prouve que c'est bien issu d'Airbnb. Airbnb, c'est
de la gestion. C'est-à-dire que ceux qui louaient en Airbnb...
Qui n'ont plus de clients.
Qui basculent en location meublée longue durée, ouais, n'ont pas encore le réflexe de l'intermédiation. Voilà, c'est un constat que fait la profession. Donc la profession voit cette évolution au sein des villes, et notamment des plus grandes, mais aujourd'hui, n'en profite pas. Donc ces relations-là, probablement manque-t-elle de sécurisation, je dirais, aujourd'hui. Ça, c'est un sujet.
Roselyne, vous êtes consultée là-dessus par des propriétaires qui, auparavant, utilisaient les plateformes Airbnb et d'autres, qui souhaiteraient se lancer dans la location un peu
Bien
plus
sûr,
pérenne.
C'est-à-dire que le bailleur qui vient à notre rencontre pourra avoir des réponses tant sur le régime juridique du bail, puisqu'il peut se poser la question, quelles sont les contraintes de durée, quelles sont les contraintes de diagnostic préalable, comment établir mon bail, mon état des lieux. Et puis, il aura aussi des réponses sur les éléments fiscaux. Hein, est-ce qu'on est imposé en BIC, en revenu foncier ? Enfin, voilà, toutes ces questions-là, évidemment, hein, ils viennent à notre rencontre, ils nous posent des questions. Donc, c'est vrai qu'évidemment, un bien qui reste vacant, alors qu'il était loué toutes les semaines à un loyer, somme toute, assez élevé, au bout d'un moment, le bailleur, évidemment, il va se poser la question : qu'est-ce que je fais de mon bien ? Donc, souvent, c'est remettre en location, en résidence principale, location meublée. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, ce qui permet d'enrichir le marché ces personnes qui sont en recherche de logement. Souvent, du meublé, on peut avoir des gens en mobilité, des jeunes, des personnes qui viennent de trouver un travail. Et du coup, ça peut redynamiser un petit peu les choses.
Et on rappelle que la location temporaire, c'est en France 120 jours, en tout cas pour la résidence principale. Et est-ce que vous avez des retours sur le bail mobilité qui a été mis en place il y a peu de temps, ce bail qui permet de louer entre 1 et 10 mois? Est-ce qu'il est de nature à attirer justement ces propriétaires qui passaient par les plateformes, qui ont un logement disponible pour quelques mois seulement? Est-ce qu'ils se tournent vers ce type de bail mobilité?
Alors, nous faisons la promotion du bail mobilité, nous l'expliquons, mais c'est quelque chose qui est très méconnu.
Oui.
Nous, on le voit dans les sondages. Hein. On teste le dispositif. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire.
Et c'est vrai que nous, on a un système de reporting sur l'ensemble de nos consultations. Et ça représente vraiment quelque chose d'assez faible aujourd'hui. Je pense qu'il y a une vraie action de pédagogie à faire. Mmh. On l'a fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore trop, trop méconnu.
Henri, comment on fait pour faire connaître ce type de dispositif ? Oh ben, vous disiez tout à l'heure dans votre billet d'humeur qu'il ne faut pas tout attendre de l'État.
Ah non, moi je crois vraiment que les professionnels, le tissu des agents immobiliers, des administrateurs de biens, c'est près de 30 000 entreprises en France. Elles sont partout. Bon. Mais on pourrait parler évidemment des notaires, enfin l'ensemble des acteurs de la chaîne, bien sûr, les acteurs publics, les ADIN. Mais enfin voilà, tous ceux qui s'intéressent au logement doivent en parler. Il n'y a pas d'autre solution. L'État ne va pas faire une campagne de communication en prime time avec des centaines de millions d'euros. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'autant que ce que dit Roselyne est très juste, c'est le régime de la mobilité. Mais qu'entend l'investisseur ? Il entend instabilité. Le bailleur, il aime bien que son locataire soit là, allez, pour 3 ans, 6 ans, et même 10 ans, ça lui va bien. On peut le comprendre. Et puis, il faut lui expliquer qu'il y a des besoins de mobilité, que ce n'est pas parce qu'on va être mobile qu'on va dégrader le logement. Il y a des règles du jeu. Voilà, il faut le rassurer. Donc, ce statut, il n'est pas bien connu. Et quand il est connu, il peut inquiéter. Alors, il y a du travail. Moi, je crois beaucoup que les professionnels peuvent y apporter leur part. En effet, c'est pas l'État. L'État fait son travail. Une agence comme l'ANIL fait son travail. Mais voilà.
Un autre sujet sur lequel je voulais avoir votre avis, c'est on a beaucoup parlé pendant le confinement des Français qui souhaitaient quitter les villes pour aller s'installer en campagne. On a à peu près 20% des Parisiens pendant le premier confinement qui avaient quitté la capitale. Séverine, est-ce que vous avez des éléments là aussi sur le souhait des Français de se déplacer dans le pays et de quitter la ville pour aller à la campagne?
Oui, on a des données. C'est très simple. Avant le confinement, la recherche sur nos sites était à 50-50 entre appartements et maisons. Une recherche au coude à coude, c'est-à-dire que c'était largement équitable. Pendant le confinement, on a eu une espèce de pic de recherche, c'est-à-dire que 2/3 des recherches s'orientaient vers des maisons, si possible avec extérieur, avec jardin, etc. Et on a vu qu'il y a eu aussi un deuxième phénomène, c'est que ces recherches de maisons avec extérieur se localisaient, se focalisaient davantage vers des villes moyennes. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de maisons non plus dans Paris, il faut être réaliste, ou dans les grandes villes, mais du coup...
Elles sont un peu chères.
Elles sont légèrement plus chères. Mais du coup, on a vu que deux phénomènes, effectivement l'attrait des maisons avec extérieur, et puis une espèce de marché de report, de glissement de l'audience. Alors je vous rassure, les choses sont revenues dans l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette espèce de déni, cette projection, cette idéalisation que l'on avait, parce qu'on avait du temps aussi, on était chez nous, donc les personnes étaient isolées, avaient le temps de se projeter sur un autre type de recherche, la recherche idéale. Aujourd'hui, les curseurs sont revenus à l'identique, c'est-à-dire qu'on recherche autant des maisons que des appartements.
Et cette donnée-là, justement, est-ce que vous allez la poursuivre dans l'année? Est-ce qu'on aura une observation dans les prochains mois? Donc, vous nous proposez donc de revenir avec de nouvelles données?
Oui. Alors moi, ce que je voudrais conclure ma chronique avec un chiffre, parce qu'on a parlé d'impayé. Y a un élément qui me semble important, c'est... de dire que les locataires, alors assumés ou pas, ceux qui le vivent malgré le tout ou ceux qui l'assument pleinement, on leur a posé la question de savoir si les loyers qu'ils payaient étaient réalistes ou surréalistes. Tout comme on pose la question aux acheteurs, en leur demandant si les prix leur semblent cohérents. Eh bien, 7 locataires sur 10 jugent que leurs loyers sont plutôt réalistes. Voilà. Donc, je trouvais que c'était un chiffre à mettre en évidence parce que ce problème d'impayé, c'est quelque chose que l'on vit malgré soi. On se retrouve à un moment avec des problèmes de vie où on ne peut plus payer son loyer. Mais dans l'esprit des locataires, ce qui est important de soulever et de noter, c'est que ils considèrent, pour la majorité d'entre eux, que les loyers qu'ils payent ne sont pas des loyers qui sont irréalistes, voilà, en dehors de ce qui est recevable. Voilà.
Et si vous voulez connaître la valeur des loyers, pardon, sachez que nous portons le site Observatoire des loyers et vous pouvez accéder en libre accès sur pas mal de données, sur 50 agglomérations où vous avez vraiment, par typologie de logement, époque de construction, vous pouvez faire votre petite requête et connaître le niveau des loyers sur les territoires.
Henri, une dernière réaction sur cette perception, justement.
Deux choses sur l'aspiration des ménages. C'est Alphonse Allais qui voulait mettre les villes à la campagne. Les Français en ont eu envie pendant quelques mois. En fait, le maître mot, c'est pour ça qu'on en revient à des choses plus posées, c'est l'attractivité. Est-ce que je trouve le travail, la culture, le sport, les infrastructures. Et donc, les Français, quand ils se posent un petit peu, oui, bien sûr, on a envie d'espace vert, on a envie de tout. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais l'attractivité. Et une conséquence, c'est que les villes moyennes, en effet, qui font tout pour gagner en attractivité depuis 20 ans, avec des efforts d'élus considérables, d'entreprises locales, eh bien, elles sont en train de gagner du terrain. Ça, c'est certain. Et il y a bien une trentaine de villes moyennes en France qui attirent. Et les grandes villes doivent s'en porter bien. Hein, je veux dire, clairement, Lyon se réjouit de la réhabilitation de Saint-Étienne. Voilà, si on parle aux élus lyonnais, c'est d'hier ou ceux d'aujourd'hui, ils sont heureux de voir que cette ville qui était au fond du trou, personne n'avait envie d'aller vivre là-bas, d'investir, c'est fini depuis quelques années. Tant mieux, ça crée un pôle d'équilibre, voilà une ville moyenne, entre beaucoup d'autres qui se réhabilitent. Sur le sentiment que les loyers ne sont pas élevés, sont justes, voilà, sont 7 ménages réalistes, 7 ménages interrogés sur 10. Le chiffre me surprend. Voilà. Bon, ça, je dirais déjà qu'il y en a 3 sur 10 qui trouvent l'inverse. Bon, moi, j'ai envie de m'attacher à cela, hein, déjà. Et c'est pour cela, sans doute, que l'encadrement, le plafonnement, l'encadrement des loyers a vu le jour. Bon, clairement, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le niveau des loyers qui est élevé dans beaucoup trop de villes, mais pas dans les villes moyennes. Les 7 sur 10 sont sans doute pour beaucoup dans les villes moyennes ou dans des grandes villes raisonnables. Oui, il y a eu une inflation des loyers. Elle s'est décorrélée des revenus des locataires. Il faut être très clair là-dessus. Ça, c'est une préoccupation. Ça veut dire qu'il faut abonder l'offre pour calmer le jeu. Voilà. Hein, bon, donc, sur tous les tableaux, il faut lutter contre la vacance. Il faut, faut faire venir des investisseurs dans l'ancien comme dans le neuf, en périphérie immédiate des villes. Il y a plusieurs remèdes, mais ils sont encore élevés. Et au bout du compte, c'est l'économie qui en pâtit parce que le reste à vivre... Le reste à vivre, qui est aussi ce qui permet de consommer, n'est pas assez élevé. Voilà. Les Parisiens, les Bordelais, les Rennais, les Marseillais consommeraient davantage de services culturels, commerciaux, de toutes sortes, si les loyers étaient un peu moins élevés. C'est un sujet macroéconomique lourd.
On reparlera des loyers et des villes moyennes avec notre invité en fin d'émission. En attendant, on voit que le logement, ça suscite beaucoup de questions. Et donc, qui de mieux que la NIL pour répondre de manière la plus objective possible à ces questions? C'est donc la rubrique de Roselyne Conant, les conseils de la NIL.
Planète Immo, les conseils de la NIL par Roselyne Conant.
Alors, j'ai choisi de vous présenter quelques questions... qui peuvent être à la fois drôles et étranges, voilà, pour vous donner un petit panel, mais bon, je vous rassure, hein, on ne les a pas tous les jours, mais voilà, c'est pour vous donner quelques idées.
Les perles de la Nil, ça s'appelle.
Voilà, on peut dire ça.
Ou les pépites.
Ou les pépites, tout à fait. Bon, après, j'ai une forte pression, parce qu'on m'a identifiée comme la meilleure juriste de France, ce qui n'est pas vrai du tout. Hein. Je pense que les 450 juristes en Adil seront
que
plus
je
forts
salue,
que moi. Voilà.
Que je connais bien, je me déplace beaucoup sur le terrain, je les rencontre très souvent, et je peux vous dire qu'ils font tous un sacré boulot.
Voilà, donc je les salue aussi. Alors, quelques exemples de questions qu'on peut avoir tous les jours. Je vais prendre une question confinement. C'était, est-ce que je peux faire mon jogging dans les escaliers des parties communes de ma copro pendant le confinement? Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir.
Il faut qu'il y ait plusieurs étages pour que ça devienne intéressant.
Tout à fait, tout à fait. Donc, on a eu cette question-là. Donc,
C'était Henri Besset qui a posé la question.
Non, parce que même pour un étage, je prends l'ascenseur. Alors là, c'est plié, ça.
Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Écoutez, relisez peut-être votre règlement de copropriété. Peut-être même un règlement intérieur dans votre immeuble.
Ça s'écrit dans un...
Alors, pas le footing spécifiquement, voilà. Mais il y a toujours cette notion de trouble de voisinage. Hein. C'est-à-dire qu'on doit... l'accès aux parties communes est libre, mais on doit respecter certaines règles de bien-vivre et de bien-séance. Et c'est vrai que, voilà, sauf si tous vos voisins sont d'accord de vous entendre courir pendant 45 minutes dans les couloirs et monter et descendre les escaliers... Voilà, bon, je pense qu'après, si on s'organise et que tout le monde fait ça en même temps, ça peut être sympa dans l'escalier, mais avec le masque, c'est moins pratique. Enfin bon. Donc voilà un exemple de question. Donc ça, c'était une question confinement.
J'ai acheté un stepper aussi, ça s'appelle comme ça, je crois. Hein.
Un stepper, qu'est-ce qu'un stepper?
En fait, c'est des fausses escaliers, mais on reste chez soi, en fait.
Donc on reste chez soi, sur place, et on monte et on descend tout le temps.
On n'a pas pensé à lui répondre ça, je pense. On a peut-être dû lui dire, oui, acheter un stepper.
Je pourrais être conseiller d'Adil.
Oui, mais comme ce n'est pas juridique... Ça ne m'est pas venu à l'esprit.
Est-ce que vous recrutez, Roselyne?
Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va y réfléchir.
Si jamais ça ne marche pas sur Radio Immo, on vous propose...
J'ai quelques diplômés de l'école qui vont vers les Adil et ils y sont très heureux et ils y font un beau parcours. Après, ils peuvent aller vers la profession immobilière, mais c'est... Voilà.
Alors, quelle autre pépite vous avez, Roselyne?
Alors, ça, je l'ai vécu personnellement, parce que j'étais quand même 18 ans conseillère en ADIL, donc j'ai fait quelques consultations dans ma vie passée. C'était un bailleur qui me disait que tous les matins, à 8 heures, il passait devant le logement qu'il a mis en location depuis un mois, et les volets n'étaient jamais ouverts. Donc, il me disait, est-ce que je pourrais aller visiter le logement pour être sûre qu'elle aère bien la chambre du logement, parce qu'il peut y avoir des dégradations. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, est-ce que vous passez à 9 heures aussi? Parce que peut-être qu'à 9 heures, elle est levée. Donc, c'est vrai que voilà, il y a tout l'enjeu, l'explication. Hein, quelles sont les obligations du locataire et du propriétaire, hein, je rappelle les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 89, avec l'obligation pour le locataire d'entretenir les lieux, d'y effectuer les réparations locatives, hein, puisque certaines réparations relèvent du bailleur. Mais aussi l'autre volet, hein, qui est l'obligation du bailleur, c'est d'assurer la jouissance paisible, de ne pas nuire effectivement à cette jouissance paisible. Donc c'est vrai que des visites répétées, je dirais sans objet, et même détenir un jeu de clés et l'utiliser, c'est interdit. On est sur de la violation de domicile.
Moi, j'ai vécu ça avec des propriétaires qui rentraient, je m'en rendais compte de manière impromptue. Dans le logement, alors qu'il n'y avait pas du tout le droit.
C'est ça. On a des propriétaires qui ont du mal à lécher leur bébé. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont
rénové, lâcher
leur bébé, leur logement qu'ils ont rénové.
Je suis une méchante sérieuse.
Voilà un autre exemple.
Il y a le problème de la période des visites, d'ailleurs. Ouais. Puisque il faut que le locataire donne accès au logement, il faut composer avec lui, il faut que ça corresponde à ses horaires. Ça, c'est un sujet très délicat.
Et là-dessus, allons-y là-dessus, parce que la situation se présente beaucoup, la mobilité, oui, elle se développe, donc forcément plus de déménagements.
Oui.
Quelle est la règle pour les visites? Je suis locataire, le propriétaire ou l'agence IMO souhaite remettre en location et refaire des visites.
Après mon préavis.
C'est quoi les obligations?
Alors, dans la liste, il y a des clauses qui sont interdites. On ne peut pas imposer plus de 2 heures par jour ouvrable. Donc, ça, c'est ce qui est dans le bail. Après, matériellement, qu'est-ce qu'on peut faire si le locataire ne laisse jamais sa porte ouverte? C'est ça, l'enjeu. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un rôle de pédagogie, d'expliquer que... alors, imaginons, c'est le locataire qui a donné congé ou le bailleur qui a donné congé, et on peut faire réaliser, justement, les visites pendant cette période de préavis. Il faut expliquer que voilà, le locataire ne peut pas empêcher le bailleur de mettre en location ou de mettre en vente. Il s'agit d'un congé pour vente et de faire visiter les candidats acquéreurs. Ce qui est important, c'est d'arriver à trouver des modalités qui puissent satisfaire les deux parties, organiser avec des horaires qui puissent être conformes. Après, le locataire peut très bien laisser un jeu de clés en disant « Écoutez, je vous fais confiance, mais à ce moment-là, vous faites visiter avec la gardienne, que je connais très bien, qui va veiller à ce que... vous ne dérangiez pas mon mobilier, etc. etc. Donc après, il faut trouver un accord entre les parties.
Bon, chacun doit y mettre du sien, en gros.
C'est ça, ouais. Voilà. Il faut rapprocher le bailleur et le locataire, quel que soit le stade de la vie du bail. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à se parler, à communiquer, et puis qu'on se dise que chacun a ses obligations et ses devoirs. Et donc, à partir du moment où on les connaît, nous, on sait les rappeler aussi. Hein, c'est-à-dire qu'un locataire qui me dit « Bon, moi, mon propriétaire, ça fait 3 ans qu'il me loue un logement avec une chaudière qui ne fonctionne pas, je ne vais pas lui faciliter la mise en location. » Là, on lui explique qu'il y avait des choses à faire pour contraindre le bailleur à rénover le logement, à changer la chaudière, etc. Mais qu'il ne peut pas, on ne peut pas se faire justice à soi-même, on ne peut pas empêcher les visites. Donc voilà, matériellement, s'il laisse sa porte close et qu'il ne répond jamais au bailleur, c'est assez difficile de saisir un tribunal, de contraindre le locataire. Donc c'est vrai que le dialogue, c'est la bonne voie.
Est-ce que vous avez d'autres pépites, d'autres questions inattendues du côté des ADIL?
Alors, une ou deux encore. Un copropriétaire me dit, écoutez, je ne prends jamais l'ascenseur, j'habite au 4e étage. Est-ce que je dois payer les charges? Eh bien, oui. C'est-à-dire qu'il y a des règles de répartition des charges, que vous soyez en copropriété ou dans un immeuble en monopropriété. Donc, quel que soit ce statut, vous avez une quote-part à payer. Donc, bien évidemment, la personne du rez-de-chaussée ne paiera pas, sauf si l'ascenseur dessert des caves et des parkings, et que vous êtes propriétaire ou locataire d'une cave et d'un parking. Donc, évidemment, on est dans une catégorie de charges spéciales où là, la répartition se fait en fonction de l'utilité. C'est-à-dire qu'au dernier étage, on paiera plus de charges d'ascenseur qu'au premier. Donc, évidemment, que vous soyez claustrophobe, développement durable ou
sportif,
un grand sportif, eh bien, vous paierez vos charges d'ascenseur. Peut-être encore une question. Donc là, effectivement, c'était un locataire dont le voisin du dessus venait d'avoir un enfant et il me disait est-ce que je peux saisir le tribunal parce que mon voisin du dessus, son enfant me réveille, ses pleurs et ses cris, c'est inadmissible. Alors bon, voilà, trouble de voisinage, c'est un problème qui est complexe. L'enjeu, c'est toujours le dialogue. Après, il y a plein de choses à faire. Après, il y a des enjeux techniques de bâtiment. Hein. Est-ce qu'on peut isoler ? Après, il y a des enjeux de fermeture, ouverture de fenêtres. Si on est dans une petite copro avec une cour, enfin voilà, il y a plein de choses à voir. Il y a toutes les notions de troubles de voisinage à partir du moment de tapage nocturne. Mais voilà, un cri d'enfant ne rentre pas dans cette définition-là. Et je pense que je ne vois pas un juge condamner quelqu'un pour troubles de voisinage, pour des pleurs d'enfants. Donc voilà, on ramène aussi quelquefois à la raison certains...
Pauvres enfants, ils y sont pour rien dans tout ça.
C'est ça.
Réécoutez le sketch de Raymond Devos, sans dessus-dessous. C'est une perle. Il y explique en 4 minutes, hein, avec le rythme qu'on lui connaît, et les jeux sur les mots qu'on lui connaît, que le locataire du dessous a vraiment envie d'habiter au-dessus. Voilà, parce que souvent, il y a du bruit, etc. Mais que c'est difficile, alors, notamment pour celui du dernier étage, parce qu'il ne peut pas monter.
Il a les oiseaux, donc, voilà, donc il a les pigeons.
Regardez, c'est facile maintenant, hein, avec Internet. Vous écoutez ce sketch, c'est une pure merveille, sans dessus-dessous, de Raymond Devos. Il faut le voir, il ne faut pas que l'écouter, il faut le voir.
Très bien. Merci, Roselyne. Notre invité nous a rejoint. J'accueille donc Jean-Michel Royot, directeur général d'Action Logement Service. Tout d'abord, Jean-Michel, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Action Logement Service dans la galaxie Action Logement ?
Bien sûr, Michael, merci, bonsoir à tous. Donc Action Logement Service, effectivement, c'est l'une des deux filiales majeures du groupe Action Logement. La première étant Action Logement Immobilier, qui est la holding des ESH, anciennement appelée les SAD HLM. C'est plus d'une cinquantaine de structures sur le territoire qui détiennent plus d'un million de logements, principalement des logements sociaux. Mais on n'oublie pas également INLI, qui est la structure de logement intermédiaire pilotée par Benoît Paru, ainsi que la foncière logement, qui travaille beaucoup à réintroduire, à développer la mixité dans certains quartiers dits difficiles. Alors, Action Logement Service, c'est quoi ? C'est d'abord le collecteur. Ce qu'on appelait avant les CIL, c'est la fusion des 20 collecteurs qui étaient ancrés sur les territoires et qui, aujourd'hui, se substituent à ces 20 collecteurs pour donner une approche beaucoup plus cohérente. Tout ce groupe, j'ai oublié de le dire, mais vous le savez, est piloté paritairement. Donc, on a des représentants du patronat et des représentants des syndicats et qui définissent un certain nombre de grandes orientations en faveur du logement. Donc Action Logement Service, je dirais, c'est le levier armé financier du groupe et Action Logement Immobilier, c'est le levier immobilier du groupe. Avec l'argent qu'on collecte, l'argent des entreprises, qu'on appelle la PEC, la participation des employeurs à l'effort de construction.
Le fameux 1% logement.
Voilà, alors ce qu'on appelait effectivement le 1% logement et qui est aujourd'hui de 0,45% de la masse salariale. Donc c'est quand même des masses considérables, pas loin de 1,6 milliard à l'heure actuelle. Et avec cet argent, en fait, nous allons tâcher de travailler sur les solutions logement pour les salariés des entreprises. Quatre grands axes majeurs qui sont le socle de nos interventions. Le premier élément, c'est le logement social. Nous avons des partenariats avec, certes, les filiales de notre groupe, mais également les opérateurs qui sont sur les territoires et qui ne sont pas liés à notre groupe, pour trouver des solutions logement aux salariés. C'est-à-dire que nous allons réserver, dès la construction, des logements au travers de subventions, de financements qu'on apporte aux bailleurs HLM. Et ensuite, nous avons des droits de réservation que nous allons apporter aux DRH et aux salariés des entreprises pour trouver des solutions logement aux salariés les plus modestes.
Ça concerne combien de logements au total ? Combien de logements sociaux appartiennent à Action Logement ?
Alors, tous les ans, on va attribuer plus de 100 000 logements. Alors, plus de 100 000 logements, c'est l'équivalent finalement d'une ville comme Rennes, si on le met en perspective, ce qui est assez considérable. Mais ce n'est pas assez, ce n'est jamais assez, et ce n'est pas vous, Michael, que j'apprendrai, que là, sur certaines zones extrêmement tendues, on dit qu'en Île-de-France, et en première couronne en particulier, il y a plus de 10 ans d'attente pour trouver un logement social. Donc on a une attente, on doit répondre à une attente extrêmement forte, et on continue à investir énormément sur ce champ du logement social, qui est majeur pour nous. Deuxième type d'activité, le deuxième axe d'activité, c'est de permettre aux salariés de devenir propriétaires. On est très attaché à ce parcours résidentiel et nous avons développé un appui complémentaire aux banques, au financement. Nous avons mis en place un prêt qu'on a revisité dernièrement, 40 000 euros, 0,5%, 25 ans. Ce qui est intéressant au-delà du taux, c'est que c'est un prêt qui ne contient pas de sûreté, pas de garantie. D'accord. Et c'est un prêt qui permet aussi d'aller financer jusqu'aux frais de notaire. Et c'est finalement la demi-marge qui manque dans certains montages financiers à des ménages qui sont, comme on dit dans mon village, un peu ric-rac, qui n'arrivent pas à boucler leur plan de financement. Et grâce à ce petit coup de pouce de ce qu'on appelait avant le 1% et qui est maintenant Action Logement, ils finissent par boucler leur plan de financement.
Je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Quel est le profil des Français qui sont ciblés par cette nouvelle aide?
C'est une des seules aides d'Action Logement qui est ouverte à tout profil.
D'accord.
Donc traditionnellement...
Sous condition de ressources?
Les autres aides sont liées à des conditions de ressources. Et okay. En général, le plafond, c'est une fois et demi le SMIC. Alors ce n'est pas une loi absolue, mais c'est à peu près ce qu'on trouve dans la plupart des schémas d'intervention d'Action Logement. Cette aide sur le prêt accession est ouverte à tout public. À tout public salarié d'entreprise, indépendamment des niveaux de salaire. Donc ça, c'est assez intéressant pour les entreprises parce que c'est aussi un schéma de fidélisation pour les salariés, parce que dès lors qu'ils sont propriétaires et pas trop éloignés de leur entreprise, et que finalement ce prêt est lié, et grâce à l'entreprise, hein, parce que c'est quand même l'entreprise, c'est l'employeur qui cotise, c'est un élément qui est, dans beaucoup de cas, bien valorisé par les DRH, comme un appui et un élément facilitateur de s'installer et de se lier durablement avec l'entreprise. Également, ce prêt-là, pour des montants légèrement inférieurs, permet aussi de faire des travaux, permet d'agrandir sa maison, de faire des travaux pour...
Comment on le demande, ce prêt?
Alors, c'est assez simple. Hein, c'est d'abord sur le site Action Logement, hein, mais c'est également des agences. On a plus de 150 implantations sur le territoire. Hein, donc Action Logement est vraiment présent dans les territoires, que ce soit les territoires de l'Hexagone, mais également de l'Outre-mer. Hein, donc nous sommes présents en Outre-mer. Et nous avons des équipes de proximité qui sont tout à fait à même de renseigner, parce que c'est sympa les plateformes, mais tous nos salariés bénéficiaires ne sont pas obligatoirement à l'aise, ne sont pas obligatoirement connectés, n'ont pas obligatoirement le matériel qui va bien pour scanner un dossier de prêt et ainsi de suite. Donc on a des équipes qui sont formées et qui sont tout à fait prêtes à aider. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est la garantie visale. Et je sais que c'est un sujet qui vous passionne.
Ça me tient à cœur, tout à fait.
Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que cette garantie, d'abord, elle est gratuite. Donc tous les jeunes qui galèrent, qui arrivent...
Tous les jeunes de moins de 30 ans, on rappelle les conditions.
Voilà, tous les jeunes de moins de 30 ans, tous les jeunes de moins de 30 ans sont éligibles.
Et ça peut être des étudiants
Étudiants, jeunes actifs. Ouais. Voilà, la seule règle, c'est moins de 30 ans.
Moins de 30
ans. Voilà. Et donc à partir de là, vous pouvez bénéficier d'une garantie visale. Vous obtenez ce certificat en moins de 48 heures. Et ça vous permet d'aller voir ensuite le propriétaire bailleur et lui dire, voilà, j'ai peut-être pas des parents qui ont une assiette financière suffisante, mais je suis accompagné d'Action Logement via la garantie visale.
Merci beaucoup Jean-Michel. Peut-être un dernier mot de la fin. Séverine, par rapport à l'action du groupe Action Logement.
Bah, écoutez, moi je suis ravie de connaître le détail de ces dispositifs et j'ai même envie de dire que ce serait même bien que la garantie visale s'ouvre à d'autres bénéficiaires finalement.
Est-ce que c'est en projet, Jean-Michel?
Alors, d'abord, il y a d'autres bénéficiaires éligibles, et en particulier les salariés en mobilité. Donc les entreprises qui sont amenées à recruter, donc à faire déplacer des salariés, en fait, les salariés ont droit à la garantie visale. Et pour 2021, nous travaillons sur un nouveau projet qui est de remettre les logements vacants sur le marché du locatif. Et nous allons utiliser, si j'ai le temps cette fois-ci de vous le dire, dans cette émission, sinon j'espère que vous me réinviterez, Michel.
Bien sûr, avec grand plaisir.
Parce que sur ces prochains mois, nous allons mettre le paquet pour remettre les logements vacants sur le locatif. Et la garantie visale est un élément de rassurance des propriétaires.
J'ai trouvé le prochain scoop de l'édito de Se Loger.
Voilà, comme ça en plus, cette émission contribue à ça. Henri, le mot de la fin?
Action Logement, on n'a pas de problème de savoir-faire ni d'engagement. Il y a un problème de faire savoir. Je trouve que la popularité de tout ce que fait Action Logement mérite d'être accrue. Il y a eu une belle campagne télévisée il n'y a pas longtemps. Eh ben voilà, faut continuer. Et puis là aussi, c'est les réseaux qui doivent en parler, les agents immobiliers, bien sûr, les ADI. Il faut faire connaître Action Logement.
Roselyne?
Nous avons le plaisir de diffuser les produits d'Action Logement via les ADIL, bien évidemment. Vous dire aussi, puisqu'on a parlé de vacances, voilà, les ADIL sont associés justement à ce plan qui va être lancé, où il y a tout un rôle de conviction à faire en direction des bailleurs. C'est-à-dire que ces logements vacants, il faut les identifier, ça c'est une première chose. On sait que les ADIL ont des observatoires aussi sur ce sujet. Il faut aller les identifier, puis après, il faut convaincre les bailleurs de remettre en location. Et Visal, c'est un bel outil.
Très bien, je crois que la promotion de Visal est faite. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site visal.fr. Merci beaucoup Jean-Michel Royot, merci beaucoup Michel. À tous les trois. Et merci pour cette première à toute l'équipe de Radio Immo et à Charlotte Eckerl qui m'a accompagné pour préparer cette émission. On vous retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Planète Immo.
Planète Immo, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et toutes les plateformes de streaming.